Le peuple de la mer, deuxième partie, chapitre 3. Quand Jean-Baptiste débarqua dans l'Herbaudière, le village agonisait de liesse. On achevait de boire le chargement de la ville de Royan, recueilli après le naufrage. À l'enseigne du XXe siècle, Zacharie se lamentait parce qu'on délaissait son auberge, mais c'était là feinte d'honnête commerçant qui loge les gendarmes, car il avait enterré dans sa cave 2 barils de rhum et 3 caisses de bougies crochetées à la côte. La plupart des pêcheurs se réjouissaient naïvement. Ils s'invitaient les uns les autres tant que Pisset le fut installé sur la table. Des femmes qui voulurent d'abord s'interposer avaient fini par trinquer, en parlant très haut de leur misère pour s'excuser. Le soir du naufrage, Aquenette avait résumé l'opinion générale. « C'est de la chance tout de même, ringue du bon !» De fait, il n'y avait que des alcools de marque et des apéritifs. Ils se les étaient disputés sur la grève, à coups de poing. Doublenaire et Perchet avaient fait des rafles, et personne n'avait songé aux morts. Le capitaine seul de la ville de Royan avait été pêché sous Belle-Île par un caboteur. Il venait de mourir, sans doute, après 30 heures d'épouvantable espoir, durant lesquelles la mer avait roulé cette souffrance humaine avant de l'achever. Son corps, enfilé dans une bouée, était à demi scié par le frottement du liège. Il avait à chaque pied une boule de crabe qui ne lâchèrent point prise quand on le tira de l'eau. Le brigadier Bernard avait tenté de contenir les pirates, mollement aidé par le garde champêtre, qui fermait plutôt les yeux, et même prenait sa part en ricanant. « Voulez-vous, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie !» Et pendant plus d'une semaine, une folie alcoolique secoua le village. À peine si 4 ou 5 barques sortaient tous les jours pour aller en pêche. Les marieurs n'avaient plus de poissons, les usines manquaient de sardines, et les gérants étaient incapables de rassembler leur personnel. La nuit, on alluma plusieurs fois de grands feux sur la grève, autour desquels les gars et les filles nouaient des rondes fantastiques, tandis que des reflets d'incendie fulguraient sur l'eau du port. Et, le matin, au petit jour, au lieu de la belle agitation des vareuses claires, des sabots sonores, des embarquements bruyants et des appareillages, le soleil éclairait des corps affalés comme des cadavres, sur le sable ravagé, et des tas de cendres qui parfois fumaient encore. Le syndic de la marine et le maire de Noirmoutier durent intervenir, parce qu'il y eut des saoulés tragiques. Le désir d'être le premier, ardent chez ces hommes qui vivent dans la lutte et l'émulation, s'exaspérait avec l'ivresse. Aux souvenirs interminables des tempêtes affrontées, des pêches mémorables et des régates épiques, des champions se défièrent et l'on vit l'acier luire au bout des poings. Aquenette, le nain, qui n'a pas la force, fut prompt à dégainer. Il fallut les gendarmes pour mettre fin au pillage et faire rentrer les couteaux. On arrêta Doublenaire, Bourrache et Charrier. Le père Piron, qui n'avait pas dessoulé depuis 8 jours, retrouvait chaque matin des forces pour gagner la maison des Ribottes. On l'y accueillait joyeusement, on le faisait danser et chanter, et plus il était ivre, plus les assistants s'amusaient. Le soir, lorsqu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, des camarades le hissaient à sa cabane. Sa femme et sa fille préféraient ne pas le voir revenir sur ses jambes parce qu'il les rossait tant qu'il tenait debout. Il reprochait à sa femme sa fainéantise et à Louise le gros poupon dont elle accoucha un beau matin avec l'aide de la mère Olichon. Le déshonneur, quoi. Et il distribuait de vigoureux coups de botte pour dresser les femelles. Elles accueillirent Jean-Baptiste comme un défenseur contre le père, qui s'était jamais tant boissonné, et comme une providence, parce qu'il avait des sous. Ainsi que beaucoup de gens des côtes et des campagnes, entretenus par leurs enfants, les Pirons vivaient des secours de leurs 3 filles en service à la ville, et des 7 gars qui naviguaient sur toutes les mers. Jean-Baptiste se laissa dépouiller sans trop rechigner. À terre, comme tous les marins en congé, il faisait le libéral et payait volontiers la tournée aux camarades chez Zacharie. On l'y avait taquiné en trinquant au sujet de la gaude qui devait le désennuyer un brin au phare.
« C'est seulement Gaud que je plains, avec un gars comme toi, » avait dit Perchet.
Et Doublener, au milieu d'une tempête de rire, émit cette plaisanterie séculaire qui fera éternellement la joie des simples.
« Gaud, il a ben l'habitude. C'est plus des cornes qu'il porte à cette heure. C'est une mâture. »
Jean-Baptiste n'avait pas trouvé ses propos à son goût et, s'absorbant dans la confection d'une cigarette, il avait répondu simplement « On n'a point le temps de se voir là-bas. Il y a le service qui commande. » Les hommes n'avaient pas compris à ce silence qu'il était amoureux. Ils savent lire dans le ciel et sur la mer, mais point au cœur de leurs semblables. Désiré, Zacharie, seul, s'en était douté, parce qu'elle est une femme, bien plus, une jeune fille qui cherche l'amour et le flair dès qu'il passe auprès d'elle. Jean-Baptiste lui-même pénétrait mal ses sentiments. Il mettait son inquiétude au compte de l'inaction et cherchait à s'occuper. Il retourna le carré de pommes de terre qui est derrière leur cabane et planta des salades. Mais à la maison, s'il jouait avec le petit que sa sœur a eu de ce Léon Coët noyé dans le naufrage du dépit des envieux, sa pensée s'attardait sur la Louise, qui est une belle fille, car les poupons sont encore si près de la femme qu'ils y ramènent toujours l'esprit des hommes. Et de la Louise, une comparaison le menait à la gaude, plus magnifique encore. Elles ont la même façon de porter orgueilleusement la poitrine en avant, le rein creux, les hanches larges. Elles marchent avec la même inconscience de leur splendeur, semble-t-il, le regard clair, le front tranquille. Seulement, la Louise est plus petite et n'a pas cet élancement à la fois ample et souple d'arbuste qui fait dire de l'autre qu'elle a de la branche. Jean-Baptiste regrettait chaque jour plus violemment son absence et il guettait ce moment du crépuscule où le feu du pilier paraît soudain au loin, pas plus gros qu'une étincelle. Il savait que la gaude était au bas de la tour, qui lui faisait signe, et il tentait d'imaginer ses occupations. Cependant, avec la nuit, une fièvre malsaine l'envahissait, lui donnant ensemble le dégoût du travail et le besoin de se dépenser. Sur la route qui mène à Noirmoutier, au travers des marais plats, il marchait alors, avec frénésie, à grands pas exténuants, puis il se lançait au travers des bossies pour sauter les étiers. Mais toujours, de plus en plus éclatant, l'œil du grand phare clignait au loin comme un appel. Jean-Baptiste connaissait des filles faciles dans le village. Plusieurs fois déjà, il était descendu au port, à la sortie des usines, pour tomber dans le remous des cotillons. Ses paletots de molleton, sa casquette à encre d'or et sa bonne mine avaient du succès. Il était entouré de petites faces vives, un peu sournoises, qui l'épiaient. Plus hardi, la fille à charrier, qui a le vice dans les yeux, et la grande bourrache se moquaient de lui à tue-tête parce qu'il ne leur avait point cédé. Un beau soir, il se décida et rejoignit la bourrache dans les paillers d'Isaacar, qui sont à côté au mur du cimetière. Il la choisit parce qu'elle ne porte point le petit bonnet vendéen, ni ses corsages étriqués qui brident la poitrine. Elle a les cheveux libres, sans résille, et les seins à l'aise, sous un caraco de couleur. Et vigoureuse et chaude, sentant la brume et le poisson, elle garde le cou nu, bien que les nuits soient fraîches, et le gars retrouvait la gaude dans l'insolence de ses allures et de cette santé. Devant eux, de l'autre côté du jardin, le pignon blanc de la maison du mareyeur s'éclairait dans la nuit à chaque tour du phare. Niché au creux d'une meule, les yeux bien en face de ces éclats rapides qui passaient de 20 secondes en 20 secondes et venaient du pilier, Jean-Baptiste s'abandonnait à la ronde des souvenirs. les branches tortes d'un pommier grimaçaient parfois des ombres dans un coup de vent sur le mur clair. De la paille courait sur l'air avec un frottement soyeux, et la mer bruissait doucement aux oreilles comme dans un coquillage. Jean-Baptiste revenait quotidiennement à ses rendez-vous, chercher dans ses possessions de hasard la seule femme qu'il désirait. On ne le voyait plus chez Zacharie autour des cartes, et les vieux le plaisantaient. D'ailleurs, la grande bourrache descendait avec lui tous les soirs sur la jetée, à l'heure où les gars et les filles causent par couple le long des filets bleus qui sèchent en grésillant. Généreuse de sa chair, contente d'être satisfaite et d'appartenir à un beau garçon, elle triomphait naïvement dans la faute. La moue de ses compagnes et la joie de son corps lui suffisaient. Elle n'avait jamais rien réclamé à Jean-Baptiste, et il n'avait point songé à donner parce qu'il n'était pas amoureux d'elle. Mais, vers la fin de son congé, elle lui demanda brusquement un cadeau en témoignage de leurs amours. « Tu vas t'en aller, » dit-elle. « J'ai seulement rien de toi. Et quand sait-il que je te reverrai ?» Il ne répondit point, mais il pensa tout soudain que ce serait gentil de rentrer au pilier avec un bijou qu'il offrirait à la gaude, quelque chose qui plairait à une femme, qui la ferait belle. Et il interrogea la fille. « Qu'est-ce que t'aimerais pour toi ?» Elle regarda vaguement devant elle, voyant dans son désir trop de choses, ou peut-être bien aucune. Et dit « Ah, ce que tu voudras, faut que ce soit une surprise !» Et elle l'embrassa à pleine joue, comme une enfant, puis s'éloigna insoucieuse, avec son cotillon plat sur le derrière et son caracol lâché, d'où sortait partout sa peau dorée de soleil. Rentré chez lui, Jean-Baptiste alla droit à sa sœur. « Et toi, qu'est-ce que t'aimerais qu'on te donne pour te parer ?»«
Moi ? Oui, toi !»
Une broche ? Alors elle réfléchit gravement à son tour, car le choix d'une parure est un problème, puis affirma «
Moi, un collier, comme celui à la fille de Zacharie, en perles de toutes les couleurs, qui brille.
On trouve ça à la ville ?
Je pense ben. »
Ils entendirent soudain le vieux Piron, qui vociférait et jurait derrière la maison, parmi des cris de femmes. La mère appela
« Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste !»
Mais là, des scènes, il haussa les épaules et se déroba, sans que sa sœur, qui espérait un cadeau, le retint. Elle gémit seulement.
« Encore sou, je vais toujours sauver mon gosse !»
Les voix de la dispute, des bruits de coups sauvages le poursuivirent un moment sur la route. Jean-Baptiste se hâtait en palpant le gros porte-monnaie à fermoir de cuivre qui bossuait son pantalon sur la cuisse. Au bout du marais, la ville surgissait dans un éclat blanc chaque fois qu'un nuage démasquait le soleil, puis l'ombre à nouveau rasait la plaine grise. Jean-Baptiste marchait fièrement, la casquette en arrière, les bras lancés. Il allait acheter un collier pour la gaude, et il avait envie de le crier aux champs comme on proclame une victoire. À Noirmoutier, il visita les amis. Et parce que les hommes ne peuvent se voir ni causer sans boire, il trinqua chez Beaulieu, chez Malchaussée le charpentier de la place d'Armes et chez les Goustans. Puis tous ensemble, ils prirent la dernière au cabaret de la mère Connard, où Jean-Baptiste s'enferma dans une joie intérieure en songeant à cette gifle qu'il reçut de la gaude ici même, au temps où il avait le béret de l'État au nom glorieux de Marseillaise. Il rentra tard par les Bossis, le sang chaud, la tête légère. Et quand, à la croix de la Ménissière, il rencontra sa mère, chargée de hardes, et la Louise, qui portait son petit dans un tablier, il demeura pantois de surprise.
« Ben quoi ? Où donc vous allez ?»«
À l'Épine, chez ma sœur, » répondit la bonne femme.
« Y a plus à tenir chez nous. Cette brute nous tuera. »
« Le père ?
Il est fou d'alcool à cette heure. C'est pique le diable !»
Jean-Baptiste réfléchit, puis, avec une sympathie d'ivrogne, il excusa le vieux, raisonna sa mère et s'efforça de l'emmener.
pour un petit qu'il a liché. Ça arrive-t-il pas à tout le monde? Faut de la miséricorde. »
Mais la bonne femme continua son chemin en jurant.
« Le bon Dieu m'y ferait point revenir. Vas-y voir si tu veux. »
Alors la Louise, attardée en arrière, lui demanda soudain à l'oreille.
« T'as-t-il collier ?»
La face contractée de Jean-Baptiste se détendit.
« Oui, là, »
dit-il en claquant sa poche. Et tandis que sa sœur relevait, d'un coup de rein, le fardeau qui lui pesait au ventre et attendait, de la convoitise plein les yeux, il se tourna vers l'herbaudière en criant
« Eh ben, à vous revoir !»
La nuit tombait uniformément sur le marais où il n'y a pas de point pour accrocher l'ombre. La route blanchissait dans le crépuscule. Le phare s'allumait à l'horizon et le gars marchait vers lui, à grands pas cadencés, la main sur son beau collier de 4 francs. Des formes se retiraient des champs. Le piétinement d'un âne le précédait obstinément sur le chemin, et le vent, qui ployait l'herbe, semblait faire ramper les talus autour de lui. Quand il arrive à sa cabane, il est nuit close. Il pousse la porte et heurte une masse inerte qui brimballe dans le noir. Il recule, craque une allumette, et voit d'abord une ombre longue osciller sur le mur, puis un corps qui pend du plafond. L'allumette brûle les doigts de Jean-Baptiste, qui la lâche et ressort peureusement. Il court au cabaret, qui est un peu plus bas sur la route, et crie aux hommes qui boivent
« Le père qui s'a pendu ! Le père qui s'a pendu !»
On se précipite avec des chandelles dans le creux des mains. Quelqu'un balance un falot au ras du sol, et des voix s'appellent dans la nuit. À la porte de la cabane, il y a un arrêt. On tend les petites lumières et on regarde. Un corps qui n'en finit plus descend du toit jusqu'à toucher 2 galoches qui luisent à terre. Louchon, le facteur, tire son couteau et, du haut d'une chaise, tranche la corde. Le vieux s'affale lourdement dans les bras du garde champêtre qui le tâte et dit d'un air entendu
« Ah, ça y est, il n'y a plus que le curé pour lui faire du bien. »
On se tait. Le cadavre gît, froid, violâtre, rendant sa langue. Louchon détord méthodiquement la corde, toron à toron, et la coupe par petits bouts qu'il distribue aux assistants en manière de porte-bonheur. Jean-Baptiste, hébété, répète sans discontinuer
« Oh, si j'aurais cru, si j'aurais cru !»
Il ne voit pas la grande bourrache qui vient d'entrer, attirée par le bruit, après l'avoir vainement attendu dans les paillets d'Isaacar. La mère Olichon s'aperçoit la première que la Piron et sa fille sont absentes. Elle y réclame. Alors, Jean-Baptiste explique qu'elles sont parties à l'épine, à bout de patience et lasses de recevoir des gifles.
« Ça lui a fait un coup à ce pauvre homme. Et voilà !»
soupire la bonne femme. Elle dispose le mort sur son grabat, entre 4 bougies, la tête appuyée sur un sac. Elle s'affaire dans cette besogne macabre où tout le monde lui obéit. La mère Olichon est respectée et crainte à la fois parce qu'elle connaît les herbes, délivre les filles, accouche et ensevelit. Elle vient d'instinct aux douleurs humaines, hante le lit des parturientes, des moribonds, et va vers l'amour aussi, parce qu'il est souvent tragique. Maintenant, elle se cale sur une chaise près du cadavre pour la veillée mortuaire. Les femmes entrent, s'agenouillent par terre et prient, tandis que les hommes défilent, le béret au doigt, avec cette gravité rigide de la face spéciale aux marins. Et Jean-Baptiste reprend la route, dans la nuit, pour aller chercher sa mère. 2 jours après, tout était fini. On avait enterré le vieux dans le petit cimetière de la falaise, où toutes les croix, pourtant basses, penchent sous le vent de mer qui leur souffle au dos, à longueur d'année, et les abat par-dessus les tombes. Zacharie avait fait la bière, avec des planches sauvées de la ville de Royan, et on l'avait porté à bras jusqu'à son trou, dès 6 heures du matin, parce que le curé voulait avoir son monde avant la pêche. Les hommes vinrent au complet, avec une vareuse propre et un visage solennel. L'aube était douce, cotonneuse, la mer lourde sous le cimetière. Des femmes agitaient des chapelets avec des airs absents, en remuant les lèvres. Et le sacristain n'eut pas plus tôt jeté la terre sur le cercueil retentissant que le curé apostropha l'assistance.
« Voilà où mène la boisson. À mourir comme un chien, sans le pardon de la Sainte Église. Il y a plus de 4 païens parmi vous qui avaient besoin d'un exemple. Que ceux-là réfléchissent !»
Les hommes furent émus. Chacun pensa à son voisin. Et pour se remettre d'aplomb avant d'embarquer, ils allèrent tous prendre une goutte. La mère Piron avait pleuré, d'abord à cause de la secousse, et puis parce qu'elle avait découvert que son homme n'était pas méchant au fond, quand elle l'avait vu bien mort. Qui aurait dit que ça l'aurait retourné, ce vieux, de ne plus avoir ses femmes pour taper dessus? Enfin, c'était tout de même une grâce du bon Dieu qu'il fût parti, car vers la fin, il devenait brutal et mangeait tout. Jean-Baptiste écrivit la nouvelle à ses frères et sœurs. « C'est notre pauvre père qu'a défunté, en se pendant tout net au plafond, à cause de la mère qui l'avait quitté. Il était noir comme un charbon quand on l'a décroché, et il a point revenu. Alors, le curé l'a béni, et il faudra bien prier pour lui. » Et cela s'en fut jusqu'à Paris, et jusque dans les mers de Chine. Puis, Jean-Baptiste fit son sac. On lui avait offert de prolonger son congé, mais, ayant retrouvé le collier dans une poche, il refusa net et se disposa. Sa mère ne chercha pas à le retenir. Elle lui avait tiré son dernier sou.
« Faut t'en aller gagner ta vie, » dit-elle. « On a si tellement besoin d'argent. »
Mais la Louise rôdait autour du grand frère, inquiète de son départ et gonflée de questions qui finirent par échapper.
« Pour qui c'est donc le collier que t'as acheté ?»
Flatté par la convoitise de sa sœur, Jean-Baptiste sourit mais ne répondit pas. Elle insista.
« Montre-le-moi !»
Alors il tira de sa vareuse un bouchon de papier crasseux qu'il défroissa.
« Tiens, il est tout rouge. Oh, j'aime mieux celui à la Zacharie. Il n'y en avait plus comme ça. »
Jean-Baptiste fut troublé. Et s'il n'allait pas plaire à la gaude? Il regarda sa sœur qui avait saisi le collier. Elle l'appliquait à sa gorge devant un éclat de miroir qui faisait dans la muraille une cassure lumineuse. Alors, il ne put s'empêcher de l'admirer, tant les grains rouges avaient d'éclat sur la chair brune. Mais quand il voulut le reprendre, la Louise se déroba en minaudant.
« Pour qui qu'il est ?
Ça te regarde-t-il ? Et puis, t'as pas honte de te parer quand c'est que ton père est mort ?»
Alors, elle le donna vivement à son enfant qui jouait sur le sol avec des pattes de cancre.
« Dis à tonton qu'il est beau, son collier !»
Le petit agrippa les perles en riant, les agita, les porta à sa bouche, et comme Jean-Baptiste se penchait pour les lui enlever, la Louise s'interposa.
« Oh, laisse-le donc, tu vas le faire pleurer !»
Tout de même, le gars les empoigna, les serra dans leur papier et sortit en rigolant parce que la Louise criait de jalousie.
« On sait ben que c'est pour la bourrache. Grand galvaudeux !»
Celle-là, Jean-Baptiste l'avait évitée depuis 2 jours, dans la crainte qu'elle ne réclamât son cadeau. Mais le soir, comme il la rencontra sur la jetée, où il allait une dernière fois voir la pêche, il la prévint.
« Tu sais, avec la mort du vieux, j'ai oublié ta surprise.
Oh, « Je t'en veux pas, mon pauvre gars, » dit-elle doucement. Puis elle ajouta en souriant, du coin des yeux, « J'en ai d'autres souvenirs, pas vrai ?» Le phare était vague là-bas sur l'horizon, et l'îlot qui lui sert de socle s'abaissait dans une vapeur dorée au ras des flots. Jean-Baptiste lui envoya un regard comme une flèche et demeura longtemps à le contempler en sifflotant, une main dans la poche où il cachait, ainsi qu'un secret, son collier de perles ardentes. Le coucher du soleil avait, ce soir-là, un lustre automnal, comme il arrive parfois que d'une saison à l'autre, des jours semblables, jusqu'en leur atmosphère, se répètent en mystérieux échos. Le grand ciel ouaté, qui se mouvait tout d'une pièce, s'était arrêté, ouvert, et du soleil avait coulé à flots sur la mer calme. Et maintenant, la lumière rejaillissait sur l'océan frappé, des brumes cernaient les barques et les roches, tandis que l'horizon s'exhaussait vers l'astre rouge, comme un peuple entier soulevé vers son Dieu. De la jetée, Jean-Baptiste assistait au prodige sans l'admirer. Les gens de mer ne s'émerveillent point des aspects du temps, ils les jugent. Sans doute, ils sentent confusément leur nature, puisqu'ils l'ont mise dans des airs et des couplets. Mais le sentiment de leur chanson est surtout la résignation des vaincus. Et quand ils regardent l'ennemi, c'est pour la pénétrer au travers de sa face. Et Jean-Baptiste se réjouissait, car il voyait du vent dans le couchant écarlate.